C'est un réel plaisir pour moi que d'être parmi vous ce matin. Je vous transmets les salutations fraternelles de l'église de la rue de Sèvres, où j'ai la joie de servir depuis début janvier, donc c'est encore tout frais, après 6 ans passés dans le Val-de-Marne. Je vous invite à commencer par la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous venons de le chanter, enseigne-nous tes sentiers. Père, nous nous plaçons devant ta parole. Donne-nous de l'entendre. Donne-nous d'avoir un cœur disponible pour entendre ce que tu veux nous dire. Donne-moi également de ta sagesse afin de parler de toi fidèlement. Amen. L'évangile de Marc commence dès le premier verset par cette affirmation. Jésus est le Messie, celui que le Père a envoyé pour sauver son peuple, conformément à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et Marc cite plusieurs témoins qui confirment cette affirmation. Les prophètes de l'Ancien Testament, le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage du Père le confirment également. Cette première affirmation, trouvée dans l'évangile de Marc, est renforcée rapidement par Jésus lui-même. Au travers des différents miracles qu'il accomplit, Jésus montre qu'il a autorité sur la maladie et que même les puissances démoniaques ne peuvent lui résister. Dans les versets que nous allons lire aujourd'hui, Jésus lui-même va une seconde fois confirmer cela. Il est bel et bien le Fils de Dieu venu pour sauver. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 22. Marc, chapitre 2, versets 1 à 22. Je lirai dans la traduction second 21. Marc, chapitre 2, versets 1 à 22. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs à changer d'attitude. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Nous arrêtons ici la lecture de la parole de Dieu. Le but du premier chapitre, du moins je le pense, est de nous amener à ces versets. Ce sont des versets clés dans l'évangile de Marc. Nous regarderons tout d'abord au verset 1 à 12, à la guérison de l'homme paralysé, puis au repas de Christ chez Lévi, les versets 13 à 22. À la guérison de l'homme paralysé. L'épisode qui nous est rapporté dans ces versets est surprenant. Je vous le dis d'avance, pour moi tout est surprenant dans ces versets. À la fin du premier chapitre, Jésus a accompli des miracles retentissants. Un homme possédé et délivré de cet esprit impur, une femme malade et rétablie, un lépreux est guéri miraculeusement. La nouvelle s'est vite propagée et rapidement la foule vient à Jésus en masse pour qu'il accomplisse d'autres miracles. Jésus, lui, décide de se retirer dans le désert pendant quelques jours. Surprenant, n'est-ce pas ? Alors que la foule vient à sa rencontre, alors qu'elle a envie de le rencontrer, de le voir à l'œuvre, alors que la foule a soif de lui, Jésus se retire au loin. Et cela parce que Jésus n'a pas envie que l'on vienne à lui uniquement pour voir des miracles. Ce qu'il souhaite, c'est avant tout d'annoncer la parole. Annoncer la parole. Connaissez-vous ce dicton ? Quand le sage montre la lune, l'idiot lui regarde au doigt. Quand le sage montre la lune, l'idiot lui regarde au doigt. Eh bien, c'est exactement cela. Les miracles annoncent quelque chose de grandiose. Mais la foule s'arrête au miracle. La foule regarde le doigt au lieu de la lune. Tout au long de l'évangile de Marc, la foule ne comprendra pas la signification des miracles. Ils verront le signe, mais n'en comprendront pas le sens. Ces miracles n'ont pas pour but votre personne, dit Jésus, mais ma personne. Ne me suivez pas parce que j'ai accompli des miracles, mais suivez-moi parce que je suis, moi, le vrai miracle. Voilà ce qu'annoncera Jésus tout au long de sa vie. Je suis, moi, le vrai miracle. Ce dont la foule a besoin, ce n'est pas de la guérison physique, c'est bien plus. C'est la guérison spirituelle. La vraie maladie qu'il est venu guérir, ce n'est pas uniquement la maladie du corps, mais c'est celle du cœur. Il ne sert à rien de croire dans un miracle, il faut croire en moi, dit Jésus. Jésus affirme que les miracles ne sont pas des preuves en soi, Jésus dit, c'est moi le miracle. Vous voulez me suivre parce que je vous ai guéri ? Non. Suivez-moi pour les bonnes raisons. Si vous me suivez, c'est parce que je suis le Fils de Dieu, le Messie, le seul qui peut vous donner la vie éternelle. Et c'est pour cela que Christ revient à Capernaum quelques jours plus tard. Non pas pour accomplir d'autres miracles, mais pour pouvoir leur annoncer la parole, pour pouvoir leur expliquer son identité. Il revient à Capernaum pour leur annoncer la parole. Oui, Jésus n'a pas envie que l'on vienne à lui uniquement pour être guéri. Ce qu'il souhaite, c'est avant tout d'annoncer la parole. Ce qu'il souhaite, c'est que l'on comprenne qui il est. Jésus revient à Capernaum. Et apprenant que Jésus est revenu, la foule part à sa rencontre. La foule vient trouver Jésus là où il est. Le texte biblique nous dit dans une maison. Peut-être chez la belle-mère de Pierre, qu'il a guéri au chapitre précédent, mais ce n'est là qu'une hypothèse. Et la foule est si nombreuse que la maison où Jésus se trouve ne peut accueillir tout le monde. Et alors que la foule se met enfin à son écoute, et qu'enfin Jésus arrive à leur annoncer la parole, d'un coup le toit de la maison se met à vibrer, des morceaux commencent à tomber, et voilà que quatre hommes font descendre, à l'aide de cordes probablement, un brancard au milieu de la pièce. Sur ce brancard, un homme paralysé est allongé. Jésus peut enfin annoncer la parole, et voilà qu'on lui coupe la parole pour lui amener un malade pour qu'il accomplisse un autre miracle. Un épisode surprenant. Imaginons-nous la scène. Imaginons si cela avait lieu ici. Les personnes assises sur les 3-4 premières rangées se décaleraient aussitôt. L'avantage de la verrière, c'est que c'est peut-être plus simple qu'à la rue de Sèvres où nous n'avons pas cette possibilité-là. Voilà, première rangée, tout de suite les gens s'écarteraient. Pierre-Emmanuel Fortune irait rapidement dans le bureau pour voir si l'assurance prendrait en charge une telle réparation. Le responsable ménage se demanderait qui va bien pouvoir se proposer pour nettoyer l'église après. Et le prédicateur qui doit s'arrêter et décider de ce qu'il convient de faire. Un événement vraiment surprenant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est la réaction de Jésus. Voilà qu'un malade est amené à Jésus et lui ne semble pas répondre comme il serait attendu de lui. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés sont pardonnés. Sans trop m'avancer, je crois que ce n'est là pas ce que les amis de cet homme avaient en tête. Jésus a accompli plusieurs miracles. Si on lui amène un paralysé, c'est plutôt pour qu'il soit guéri. La réponse de Jésus peut sembler à côté de la plaque, parce que ce n'est pas là ce qu'avaient en tête les amis de cet homme. Mais en réalité, la réponse de Jésus est tout sauf inappropriée. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus connaît bien le cœur humain. Jésus sait que s'il accomplit un miracle, peu prendront le temps d'écouter ce qu'il a à dire. S'il accomplit un miracle, tel l'idiot qui regarde le doigt au lieu de la lune, la foule ne regardera qu'au miracle. Jésus décide de leur donner la lune tout de suite. « Je suis venu pour pardonner les péchés. » « Je suis venu pour pardonner les péchés. » Voilà ce que vous devez savoir. « Je suis venu pour pardonner les péchés. » Le vrai besoin de l'être humain est là. « Je suis bien plus que seulement un faiseur de miracles. » « Je suis venu faire bien plus que seulement guérir les corps. » « Je suis venu pour le pardon des péchés. » Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. L'affirmation centrale de Christ, c'est celle-là. L'affirmation centrale de l'Évangile, c'est celle-là. Je suis venu, dit Jésus, pour le pardon des péchés. Marc révèle ici le cœur de son Évangile. L'être humain a besoin de pardon. Ce pardon, Christ peut le donner. Ce pardon, seul Christ peut le donner. Le vrai besoin de cet homme paralysé, c'est le pardon. Ce dont il a vitalement besoin, c'est de pardon. Et cela est valable pour tout homme. Le vrai problème de l'être humain, c'est son péché contre Dieu. Tout homme est pécheur. Tout homme. Oui, j'insiste. Tout être humain est pécheur. Vous ne vous pensez pas pécheur ? Mais je vous invite à prendre un peu de temps ce soir, de passer ce que j'aime appelé le test du sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, dont voici quelques courts versets. Tout homme, Matthieu 5, 22, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Ou un petit peu plus loin, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ou un peu plus loin, en versets 43 et 44, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous ne vous pensez pas pécheur, relisez ce sermon sur la montagne. Tout homme est pécheur. Tout homme marche, non selon la pleine volonté de Dieu, mais en partie du moins selon ses désirs déréglés. Jour après jour, nous offensons Dieu en affirmant savoir mieux que lui ce dont nous avons besoin. Nous offensons Dieu en préférant les voies de l'adversaire plutôt que les siennes. Nous offensons Dieu en l'ignorant décision après décision. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Cette affirmation de Jésus est profondément merveilleuse. Parce que par elle, Jésus nous rappelle qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour recevoir ce pardon. Par notre péché, nous offensons Dieu, oui. Mais Dieu en a le cœur brisé de nous voir loin de lui. Cela l'attriste au point que le Père a décidé d'envoyer le Fils pour pouvoir répondre à cette problématique du péché. Si Jésus est venu, ce n'est pas uniquement pour guérir le corps, mais pour guérir le cœur. Tes péchés sont pardonnés. Ainsi, Jésus devait guérir cet homme, mais que ses péchés ne lui soient pas pardonnés, alors la guérison physique ne lui aurait pas servi grandement, parce qu'il aurait fini par connaître la colère de Dieu. Le vrai problème de l'être humain, c'est le péché. La maladie, la persécution, le rejet, tout cela est secondaire face à cette réalité du péché. Tes péchés sont pardonnés. Avant même d'être guéri, cet homme a reçu la meilleure nouvelle qui soit. La guérison que Jésus lui accordera n'est que la cerise sur le gâteau. Tes péchés sont pardonnés. Tu n'as plus à craindre de la mort, car tes péchés sont pardonnés. La colère de Dieu à ton égard n'est plus. Tes péchés sont pardonnés. Quelle merveilleuse nouvelle. Jésus est venu pour délivrer du péché. Tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Nous voyons là, dès le deuxième chapitre, pointer l'opposition contre Jésus. Un blasphème! Le pardon, seul Dieu peut l'accorder. Ils ont raison. Ils ont raison. En revanche, ils n'ont pas compris ce que Jésus annonce. Il est le Fils de Dieu, venu pour le pardon des péchés. Il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il peut pardonner les péchés. Le Fils de Dieu venu pour pardonner le péché. Tes péchés sont pardonnés. L'opposition contre Jésus, c'est vrai, cette proclamation, elle est trop simple à faire. Mais c'est vrai, on ne peut pas vérifier. Pour qui se prend-il? N'importe qui peut dire « Je te pardonne tes péchés ». On ne peut pas vérifier cette affirmation. Verset 8, Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche ?» Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Ce qui arriva. Jésus savait qu'ils réagiraient ainsi dans leur cœur. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Je te pardonne les péchés ou lève-toi et marche. Eh bien cet homme paralysé va marcher. Je vais accomplir ce miracle afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a toute autorité pour pardonner les péchés. J'accomplis ce miracle afin que vous compreniez. Je suis venu pour pardonner les péchés. Ce miracle a comme but que vous compreniez cela. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Après ce miracle, Jésus va chez Lévi et prend le temps de manger avec ceux qui le suivent. Pourquoi le fait-il ? Là encore, pour leur présenter le cœur de l'Évangile. Pour leur présenter le cœur de l'Évangile. Versets 15 et 16. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Revoilà les spécialistes de la loi, ceux qui suivaient Jésus en espérant pouvoir prouver qu'il n'était pas le Messie. Parce que ne nous trompons pas, si les scribes et les pharisiens la suivent Jésus, ce n'est pas en espérant qu'il soit le Christ, mais pour pouvoir le discréditer, ce qu'ils cherchent à faire ici. Après tout, si Jésus est vraiment le Messie, comment se fait-il qu'il choisisse de manger avec des pêcheurs, des collecteurs de taxes, plutôt qu'avec nous, spécialistes, experts de la loi ? Non, clairement, Jésus n'est pas le Messie. Le Messie viendrait vers nous, bien avant eux. Voilà ce qu'ils se disent. Si Jésus était le Messie, il viendrait vers nous pour nous féliciter de notre fidélité dans la religion. Nous, nous prions, nous allons au temple, nous donnons la dîme, nous faisons les lectures au culte, nous allons à l'étude biblique, nous obéissons aux 10 commandements, etc., etc. S'il était vraiment le Messie, c'est bel et bien vers nous qu'il irait, pas envers ces pécheurs. Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce que Jésus annonce ici, est fort. Tout d'abord vis-à-vis des malades, pour reprendre l'image que Christ utilise. Dieu en a le cœur brisé de nous voir loin de lui. Vous êtes brisé par la vie, brisé par votre péché. C'est pour cette raison même que Jésus est venu. Il n'est pas trop tard pour accepter Jésus et recevoir le pardon des péchés. Je suis venu pour les malades. Et ensuite, cette affirmation de Christ vis-à-vis des pharisiens et des spécialistes de la loi est tout aussi forte. Vous savez-vous pécheurs ? Vous savez-vous pécheurs ? Vous pensez mériter Dieu ? Vous vous trompez gravement. Parce que personne ne peut mériter le paradis. Jésus est en train de leur dire, vous vous dites religieux, vous avez compris la doctrine, vous êtes peut-être passionné, vous êtes fidèle au temple, mais vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. parce qu'il n'y a rien derrière votre foi. Il n'y a rien derrière leur foi. Aucune racine, aucun fondement. Il n'y a rien derrière leur foi. Souvent, nous pensons qu'il y a deux chemins possibles dans la vie. Deux chemins possibles. Un qui mène à la mort, l'autre à la vie. Et souvent, nous pensons que celui qui mène à la vie, c'est le bon chemin. Le chemin qui mène à la vie, nous pensons que c'est celui où nous essayons d'être bons. Nous essayons d'obéir aux 10 commandements, où nous prions, où nous donnons, où nous aidons les personnes âgées à traverser la rue, etc. etc. Et l'autre chemin, lui, c'est celui où les gens feront tout ce qu'ils veulent. On peut mentir, on peut faire ce que l'on veut avec son corps, sa sexualité, son argent, avec son temps, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Deux voies différentes. Vivre dans la moralité ou vivre dans l'immoralité, avec bien sûr les moraux qui iront au paradis, les immoraux, eux, en enfer. Mais ce que Jésus annonce ici est bien différent. Bien différent. Et c'est choquant. C'est choquant ce que Jésus annonce aux scribes, aux spécialistes de la loi, aux pharisiens. Parce que ce qu'annoncent les spécialistes de la loi est la chose suivante. Attends, je ne comprends pas. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour mériter mon salut. Si Jésus était vraiment le Messie, c'est obligatoirement vers moi qu'il viendrait. Pas vers ces pécheurs. Les spécialistes de la loi, les pharisiens, là, estiment mériter leur salut. Elles sont devant Dieu et ils cherchent à se justifier elles-mêmes par leur comportement exemplaire. Mais on ne peut venir devant Dieu et vanter nos mérites. On ne peut venir devant Dieu en présentant nos efforts et nos réussites. Parce que notre péché est bien trop grand. Bien trop grand. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de bonne personne, de personne qui serait assez bonne pour être sauvée. Parce que même les meilleurs sont pécheurs. Il n'y a que deux routes possibles, oui, mais elles sont bien différentes de ce que l'on pourrait croire. Il y a celle où l'on fait de Jésus son Seigneur et Sauveur, et celle où l'on fait de soi-même son Sauveur, son Dieu. Ces paroles de Jésus doivent nous interpeller. Doivent nous interpeller. Il est possible d'être dans l'Église, d'être engagé, religieux, et pourtant ne pas avoir compris le message de l'Évangile. Il est possible de lire sa Bible, de chercher à l'appliquer, sans avoir réellement compris sa signification centrale, de comprendre les choses secondaires, mais pas le point principal. Comme si l'on gravitait autour de Jésus, que l'on apercevait un grand nombre de détails de Jésus, mais que l'on ratait le centre. Ce que Jésus souhaite au moyen de ce texte, c'est de nous remettre en question. Où en sommes-nous avec Jésus ? Sommes-nous des pharisiens modernes ? Ou alors connaissons-nous réellement Jésus-Christ et son œuvre ? Sommes-nous fondés sur le roc de Jésus-Christ ? Ou fondés sur autre chose ? Pour le pardon des péchés, il faut passer non pas par nos œuvres, mais par Christ, par Christ. Jésus est le seul à pouvoir pardonner les péchés. Le seul. Par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Les spécialistes de la loi, les pharisiens n'ont pas réussi. Nous n'y arriverons pas non plus. Il faut passer par Christ. Il faut passer par Christ. Jésus, le seul à pouvoir pardonner. Verset 18 et suivant. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Durant ces jours-là. Ce pardon, comment Christ va-t-il le donner ? Jésus y fait déjà allusion dans ces quelques versets. Aujourd'hui, Jésus dit, réjouissez-vous car je suis là. mais viendra le temps où je vous serai enlevé. Alors vous serez triste. Jésus ici annonce sa mort. Je vous serai enlevé. Vous serez triste. Mais cette tristesse ne durera pas, parce qu'en ce jour-là, le pardon des péchés vous sera accordé. En ce jour-là, lorsque je vous serai enlevé, le pardon des péchés sera accordé. Jésus, n'en disant pas plus ici sur le salut, je ne le ferai également. Mais je vous encourage à lire l'évangile de Marc et y trouver cette réponse. Je vous invite à faire attention à ce qui sera dit lorsque nous prendrons la Sainte Cène. Mais voici simplement ce que j'en dis ce matin. Jésus, le seul bien portant, va donner sa vie pour les malades. Le miracle, c'est lui. Vous savez, le christianisme est la seule religion au monde où le salut est donné par grâce. La seule. Pour toutes les autres, il faut mériter son salut. Si l'on fait plus de bien que de mal, alors on peut espérer quelque chose. Voilà le problème. Nous n'arriverons jamais à nous justifier devant Dieu. Nous sommes bien plus pécheurs que nous le pensons. Mais quelle joie! Quelle joie de savoir que nous sommes également bien plus aimés que nous le croyons. Jésus nous pousse à la réflexion. Où en sommes-nous par rapport à lui? Où en sommes-nous par rapport à nous-mêmes? Faisons-nous de Jésus notre Sauveur et Seigneur? Ou nous estimons-nous assez bons pour mériter notre salut? Où en sommes-nous par rapport à Jésus-Christ? Ne tardez pas, si ce n'est pas déjà fait, à faire de Jésus votre Sauveur, et de lui seul votre Sauveur. Faites de lui votre Sauveur dès aujourd'hui, et cherchez à vivre selon la volonté de Dieu, non pas pour mériter quelque chose, mais tout simplement en reconnaissance suite à ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Prenons juste un moment dans le silence.